Pour moi, la modestie, c'est de mettre en valeur sa personne sans qu'elle écrase les autres. On pourrait la mettre en relation avec la confiance en soi. Vraiment d'être en adéquation avec soi-même, mais en laissant une place pour les autres et une écoute pour les autres. Avoir confiance en soi, c'est de se connaître vraiment et connaître ses valeurs, ses qualités, ses défauts. Et justement, de ne pas être en opposition avec les autres, de se dire que la vie, c'est pas une compétition et qu'il y a une place pour chacun.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Céline. Bonjour à toi, Céline.
Bonjour. Et bonjour à tous.
Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en deux phrases ?
Alors, bonjour. Deux phrases, c'est très peu. Donc moi, Céline, créatrice du turban français et rêveuse et rigoureuse. Voilà.
C'est super beau, deux adjectifs, rêveuse et rigoureuse. De toute façon, on aura le temps vraiment de rentrer en détail dans ton parcours et ta marque, le turban français. Mais pour commencer, tu sais que le sujet du podcast, c'est la modestie. Donc, quelle serait ta définition de la modestie ?
Alors, c'est vraiment une définition assez vaste qui peut être très, très personnelle, je pense, propre à chacun. Pour moi, la modestie, c'est de ne pas mettre, enfin, de mettre en valeur sa personne sans qu'elle écrase les autres, en fait. C'est vraiment aussi, on pourrait la mettre en relation avec la confiance en soi. Vraiment d'être en adéquation avec soi-même, mais en laissant une place pour les autres et une place, une écoute pour les autres.
J'aime beaucoup ce que tu viens de dire quand tu lis la modestie avec la confiance en soi, parce que il y a beaucoup de personnes parfois qui l'opposent, et même parfois quand on recherche sur internet, on peut voir que la modestie se définit comme justement le contraire de la confiance en soi.
Et de l'orgueil aussi, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en quoi se présenter en laissant la place aux autres pourrait être une forme de confiance en soi, selon toi ?
Ben justement, je pense que avoir confiance en soi, c'est de se connaître vraiment et de savoir, de connaître ses valeurs, ses qualités, ses défauts, et justement de ne pas être en opposition avec les autres, de se dire que la vie, c'est pas une compétition et qu'il y a une place pour chacun. Donc pour moi, c'est ça aussi, la modestie, ça fait partie de cette définition-là.
Et est-ce que la modestie pourrait s'inscrire dans le processus créatif ? Est-ce qu'il y aura un lien entre modestie et créativité ?
Ah ben totalement, je pense, oui, comme ce que j'étais en train de te dire, que la modestie, c'est aussi laisser une place à chacun. Et justement, dans le processus de création, c'est... la création, c'est vraiment montrer qui on est, montrer son image sans forcément montrer sa personne. Et c'est ce qui fait que une marque, quand elle est on est encore dans le processus de création et quand l'image est maîtrisée entre guillemets, c'est ce qui fait qu'on est en adéquation avec la modestie. Je sais plus si c'est très clair ce que je dis. Non,
si c'est clair, mais c'est ce qui m'a intéressée et interpellée, c'est que tu dis, c'est montrer son image sans montrer sa personne.
Oui.
Dans quel sens ? Parce que dans quel sens ? J'arrive pas
à bien comprendre. Non, mais c'est vrai. C'est une question de créateur. C'est qu'on se sent quelquefois, on est un peu aussi fouillis dans nos têtes. Je voulais dire. Montrer qui on est, c'est-à-dire montrer son travail, mettre en avant nos compétences, nos intuitions, nos rêves, sans montrer notre personne, nos faiblesses, nos fragilités, ou alors le faire de façon maîtrisée.
Donc plutôt mettre en avant son travail que soi, en fait.
Exactement, ouais.
Parce que le travail est un prolongement de notre personne.
Oui, forcément. Mais ne pas faire de culte de personnalité, bien sûr.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis totalement d'accord avec toi. Et si on revient un peu plus sur ton parcours, qu'est-ce que tu as étudié ?
Alors, j'ai étudié l'histoire de l'art. Qui m'a grandement intéressée parce que j'ai toujours adoré l'histoire. Je viens d'une famille qui est assez adepte de l'art. J'ai des membres de ma famille qui sont artistes, donc j'ai un peu été baignée dans tout ça, mais sans être une trop grande passionnée pour pouvoir en faire mon métier. En parallèle, j'ai aussi toujours été passionnée, amoureuse des vêtements, des bijoux, du beau. J'ai toujours rêvé de créer. Et ce qui m'a amenée, après ma licence d'histoire de l'art, de me réorienter, entre guillemets, parce que je ne sais pas si on peut parler de réorientation ou plutôt de prolongement de mes études, dans une école de mode à Paris qui s'appelle Modesta. Voilà, et j'ai fait 5 ans d'études en plus, de A à Z, j'ai tout appris, du patronage, modélisme, pour tout connaître.
Et si on revient, parce que là, t'es allée un peu vite.
Ah, pardon.
mais c'était super intéressant, comme ça, pour avoir le lien entre la mode et l'art. Quand t'as étudié l'histoire de l'art, quelles étaient tes matières préférées et qu'est-ce que tu as appris qui te sert encore aujourd'hui?
Alors, il faut savoir qu'en histoire de l'art, tous les cours sont déclinés en périodes. C'est-à-dire qu'on a une période où on va étudier l'art antique, une période où on va étudier l'art moderne, qui est l'équivalent de l'époque Renaissance jusqu'à la Révolution française, etc. J'ai pas de période préféré en particulier, mais c'était vraiment moi les études de tableaux, les études, parce qu'on avait beaucoup d'analyses, par exemple de tableaux avec les attributs du pouvoir et tout. En fait, quand on les analysait, tout rentrait. En fait, tout était important, du manteau utilisé, la couleur du velours, les attributs royaux. C'est un exemple. Tout en fait dans le vêtement ou dans les accessoires raconte une histoire. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup.
Donc, on se rend compte que chaque détail compte.
Exactement, ouais.
Et c'est quelque chose que tu as dû retrouver après, quand tu as étudié la mode ?
Oui, on a eu des cours de culture générale et d'histoire de la mode. Et ça faisait partie de mes cours favoris, de retrouver un peu cette matière, cette culture qu'il faut acquérir pour pouvoir avancer. Quand on dit la mode est toujours un éternel recommencement, j'en suis sûre à 100%. On se nourrit, nous créateurs, de ce qui nous entoure et de ce qui a été fait pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer et proposer quelque chose de nouveau dans une certaine continuité.
Et à Modesta, tu as fait 5 années. Et c'était 5 années de quoi déjà ? Quels étaient les principes ?
Alors, les premières années, c'était vraiment les bases pour apprendre la couture vraiment de base, avec les patronages, le modélisme, apprendre à se servir d'une machine à coudre, monter un vêtement, tout. Et ensuite, je me suis plus orientée vers le design. Me cantonner à vraiment savoir monter un vêtement, mais savoir créer une marque, une collection de A à Z. Et pour savoir le faire, évidemment, il faut les bases, il faut connaître le vêtement et savoir le monter, et savoir si c'est possible, si notre imagination, si on va pouvoir réaliser ce qu'on a imaginé. Donc ça, c'était un deuxième temps de mes études là-bas. Donc savoir créer, enfin apprendre à monter une marque, à apprendre à monter une collection. Et c'est très compliqué, j'apprends encore maintenant, justement, il y a tellement de choses qui rentrent dans les paramètres que c'est en constante évolution.
Et quels sont les principaux points à avoir en tête pour justement créer une marque que tu as pu apprendre pendant tes années à Modesta?
Alors, il faut... Je pense, et même, enfin, en tout cas pour moi, ça m'a énormément servi. Il faut de l'organisation, de la rigueur et beaucoup d'audace. De la créativité, de l'audace, ça fait partie. Il faut savoir le mixer. C'est un peu bizarre, de mettre en opposition la rigueur et l'organisation, et en même temps de savoir lâcher prise, de savoir imaginer des choses qu'on n'a jamais vues. Donc tout ça rentre en compte. On a beaucoup de choses à apprendre, mais encore maintenant.
Je pense qu'on apprend toujours.
Exactement, mais ça c'est sûr, j'en suis convaincue.
Et tu sais, tu parlais de l'audace, comment avoir beaucoup d'audace?
Ça c'est une bonne question, je pense que c'est vraiment un travail à faire sur soi-même et je pense que c'est à mettre en relation avec la confiance en soi. L'audace c'est vraiment, alors c'est une qualité, qui peut vite se retourner en défaut, je pense. Donc c'est vraiment un dosage, un équilibre qu'il faut avoir. Je pense que c'est oser. Voilà, c'est tout simplement, il faut oser, il faut se lâcher les rênes. Et en même temps, ça montre aussi qui on est et ça montre notre personnalité artistique.
Et pendant tes études à Modesta, tu as eu l'occasion de faire des projets?
Alors oui, moi j'ai créé une marque fictive. Enfin, à la base, je la voulais pas fictive, je voulais vraiment la créer. Mais évidemment, quand on apprend à créer sa marque, on voit que c'est pas de tout repos et que ça peut être rapidement très très contraignant, surtout dans la marque que j'avais imaginée. C'était des vêtements en cuir sur mesure, donc vraiment une collection, une marque et une collection très très luxe, haut de gamme, avec la possibilité de faire peindre sur le cuir des éléments, ce qu'on voulait, ce que la cliente voulait vraiment. C'était vraiment une personnalisation pour rendre le vêtement unique. Et c'est aussi ce qui m'avait refait le lien avec mes études précédentes en histoire de l'art, c'est que je me suis beaucoup inspirée des éléments picturaux, des fleurs qu'on retrouvait sur les tableaux baroques, pour constituer un petit catalogue de ce que je pouvais proposer à mes potentiels clients. Voilà.
Et pourquoi t'as pas continué ce projet? Quels étaient les principaux freins?
Eh bien, justement, les freins, c'est que il faut, donc, quand on crée une marque, il faut savoir tout gérer de A à Z. Et bien sûr, nous, on sait qu'on a droit à l'erreur parce que c'est ce qui fait partie de notre apprentissage aussi. Et on sait que on va se tromper à un moment ou à un autre, par exemple dans notre phase de communication, ou bien on va se tromper en commandant trop de matières premières, ou enfin bref, il y a tout plein de paramètres. Et en fait, ce qui m'a un petit peu freinée, c'était vraiment c'était trop gros pour moi. Je voulais vraiment recommencer ensuite une marque beaucoup plus simple, beaucoup plus ouverte aux gens, parce que là, c'était vraiment très fermé, très axé sur sur le luxe, mais l'ultra luxe. Mmh. Donc c'est ouais, c'était trop gros, et mais ça me plairait encore de enfin je garde en tête cette collection, mais je me sens un peu trop petite encore pour pouvoir le faire. Il faut vraiment avoir des contacts, il faut connaître beaucoup de monde, parce que là c'est trop luxe pour commencer.
Le réseau, ça joue beaucoup dans le développement d'une marque.
Ah, mais c'est la première chose à avoir. C'est le réseau. Se constituer un réseau, c'est pas le plus facile, loin de là. Vraiment, mais après, ça fait aussi partie de l'audace et de la confiance en soi. C'est de savoir frapper aux portes, c'est frapper aux bonnes portes. Et même demander de l'aide, en fait, parce que on en a toujours besoin. Et en fait, ça nous permet aussi de parler de nos projets et de voir des points qu'on n'aurait pas imaginé seul dans notre coin si on reste à vouloir monter notre marque tout seul dans notre coin. Voilà, il faut le partager, il faut des avis, et ça passe par le réseau.
C'est vrai que quand on a trop la tête dans le guidon, dans notre projet, parfois, on voit pas forcément tout ce qui se passe et on n'a pas forcément la même vision que quelqu'un extérieur au projet pourra avoir.
Exactement, oui. Mais ça m'aide encore, hein. En ce moment, je suis encore en plein développement, en pleine restructuration stratégique. Et heureusement que j'ai un réseau et des contacts qui sont là pour m'aider justement à voir des points que moi toute seule j'aurais jamais vu, ou je me serais pas posé la question, ou alors je me serais dit que c'était tellement évident, en fait c'est tellement évident pour moi que ça ne l'est pas forcément pour les autres. Enfin, c'est toujours et je dirais même que c'est vital, en fait, pour nous de parler à quelqu'un d'extérieur, de demander conseil, de demander des avis, c'est vital, c'est toujours une remise en question.
C'est essentiel pour avancer. Et là, tu as dit que tu étais en restructuration, on sait pas encore ce que tu fais, mais si on revient après tes 5 années d'études à Modesta, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé ou tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat?
Alors, ce qui était super avec cette école, c'est qu'on avait deux ans et demi à l'école où j'étais en alternance. Et puis avant, évidemment, j'avais fait des stages, donc ça m'a permis de bien écumer un petit peu tout ce qu'il y avait, comme différentes possibilités en travaillant dans la mode.
Et t'as fait des stages où? Désolée, je te coupe.
Non, pas de problème. Alors, mon premier stage, c'était chez Chourouk, qui fait des bijoux très luxe. En tout cas, quand j'y étais, c'était vraiment un peu des colliers comme Elizabeth Taylor vous voyez un petit peu les colliers très luxe. Mais en offrant cette possibilité-là un peu plus à tous les publics, parce que Chourouk utilise des éléments Swarovski, et voilà. Donc voilà, donc pas mal de bijoux.
Et tu faisais quoi?
Alors là, comme c'était mon premier stage, j'étais à l'atelier. Donc j'ai vraiment j'ai fait pas mal de combinaisons de pierres. C'était assez, c'était marrant, en fait. Parce on me donnait des instructions. Je me souviens, oui, je devais faire comme une broche. On m'avait dit, il faut que ce soit multicouleur, mais surtout pas arc-en-ciel. Enfin, c'était marrant. Et après, il y a plein de questions après. Sur comment ensuite présenter ce que j'avais fait, est-ce qu'elle va aimer, est-ce qu'elle va trouver ça trop arc-en-ciel, enfin voilà, c'était beaucoup de remises en question aussi par rapport à mon travail. Après, je suis rentrée chez une créatrice en baroquinerie qui s'appelle Olivia Clergue. Et là, c'était un peu ma révélation en ce qui concernait l'accessoire. En fait, je me suis dit, ça y est, moi, je veux vraiment faire de l'accessoire parce que c'est vraiment là où on peut développer toute sa créativité. L'accessoire, enfin, il faut que ce soit portable, mais à la main, ou enfin voilà, c'est pas comme le vêtement où il y a un aspect pratique forcément pour bouger, pour s'asseoir. Là, l'accessoire, ça peut être complètement fou. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est ça que je veux. Et la créatrice Olivia Clergue est vraiment une créatrice adorable. J'ai rarement eu j'étais en direct avec elle, donc ça c'était génial parce que j'ai vraiment pu toucher à tout. Elle était d'une bienveillance vraiment. Je suis encore en contact avec elle depuis toutes ces années. Et c'était vraiment un de mes meilleurs stages. D'ailleurs, j'en ai refait un autre avec elle l'année suivante.
Et qu'est-ce que tu faisais avec elle? Qu'est-ce que vous faisiez?
Alors, donc, on était vraiment toutes les deux la première année où on a vraiment développé toute une collection de sacs et petites maroquineries. Alors, je sais plus si c'était pour l'été ou pour l'hiver. Enfin, bref. Et vraiment, on a développé ça. C'était vraiment pas un travail à quatre mains, mais c'était vraiment, on était vraiment dans la communication où moi je lui apportais aussi mon savoir-faire, bon, à mon niveau, hein, parce que c'est elle la créatrice et je suivais évidemment ses instructions, mais tout ce qui était, par exemple, fiches techniques. Tout ce qui est important aussi pour les créateurs et ce qui est moins créatif mais tout aussi important, j'ai réussi à lui apporter, à lui refaire toute sa collection qu'elle avait imaginée. Je lui ai tout refait un peu en esprit 3D sur les logiciels pour donner un rendu beaucoup plus visuel et beaucoup plus réaliste. Pour vraiment se projeter dans la collection.
Et si tu devrais résumer trois enseignements principaux que tu as pu tirer de ce stage, ce seraient lesquels ?
Alors, c'était la communication, la confiance et l'organisation.
Les choses clés.
Comment ?
Ce sont les trois choses clés pour réussir en tant que marque.
Ah oui, mais entre autres, après, il y a plein d'autres paramètres, mais oui, ça fait partie, on peut dire, des trois piliers. Je pense que ce sont ces trois mots-là.
Et après tes stages, ta formation, du coup, à Modesta, tu t'es directement lancée dans le monde du travail ou...
Alors, oui, en fait, je suis sortie de... J'ai eu mon diplôme et en même temps, j'étais encore en alternance chez Etam, donc là il n'y avait rien à voir. C'était une boîte beaucoup plus importante, avec des centaines de salariés. Donc c'était ma première et ma seule expérience dans une grosse boîte. Ça m'a pas mal appris aussi sur ce que je ne voulais pas pour moi, mais c'était une expérience tout aussi enrichissante. Ça m'a appris à me dire qu'il fallait que je sois seule en fait à faire mes créations et que je voulais pas en fait que quelqu'un qu'un service interfère pour me dire il faudrait faire ça, ça se vend pas, enfin voilà, c'était vraiment ça m'a beaucoup appris sur ce que je voulais et sur ce que je ne voulais pas. Mmh. Et donc après cette expérience chez Etam, je me suis lancée seule en auto-entrepreneur pour le turban.
Et justement, on y vient. Pourquoi le turban ?
Alors le turban, c'est très simple. J'ai toujours été en admiration devant, comme je t'ai dit tout à l'heure, devant les bijoux, les parures, les grandes robes. Enfin voilà, j'étais fan de Sissi, étant petite. où je m'imaginais dans ses robes avec ses diadèmes. Enfin, c'était vraiment c'est un peu très petite fille, hein, mais ça fait toujours rêver. Et donc, je me suis dit pourquoi ne pas lancer une marque, peut-être un monoproduit en proposant un turban. On n'en voit plus en ce moment. Donc pourquoi ne pas faire ça? J'étais avec une copine à l'époque où on s'était dit on va se lancer toutes les deux là-dedans et on va l'appeler le turban parce qu'on fait des turbans en fait. On n'a pas cherché à midi à 14h. On s'est dit que c'était très bien. En plus, le turban, on peut le dire dans toutes les langues, tout le monde comprend. Et donc on s'est dit on va faire des turbans et ça n'existe pas. Je connais pas de marque qui fasse que ça, ou des beaux turbans que j'ai envie de mettre pour une soirée ou parce que je dois me tirer les cheveux, parce que je dois me maquiller. Enfin voilà. Donc c'était le turban.
Et ce que j'aimerais savoir, c'est Day One. Qu'est-ce que tu as fait? Par exemple, tu t'es dit avec ton ami au début, vous étiez deux, on va lancer une marque, on va l'appeler le turban, on va faire un turban. Et le premier jour, concrètement, t'as le nom. Voilà. Qu'est-ce que tu fais?
Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, moi, à chercher je fais une recherche, en fait, graphique, me dire comment je vais créer mon logo. Et puis, en fait, mon amie avait un travail. Et je lui ai demandé, est-ce que je t'attends pour avancer? Est-ce que je t'attends? Et puis, finalement, elle est restée à son travail. Et donc, j'ai été toute seule. Et donc, day two, je me suis enregistrée toute seule comme auto-entrepreneur avec la marque Le Turban, que j'ai ensuite rebaptisé Le Turban Français, et pour avancer, en fait.
Et pourquoi cette rebaptisation Le Turban Français?
Alors, j'ai toujours trouvé intéressant et en plus, en ce moment, je trouve que c'est très important de remettre en valeur l'artisanat français. Et donc, j'utilise vraiment, mon maximum, c'est de créer, de rester français ou européen. C'est une petite valeur ajoutée à ma marque. Voilà. Et de pas... externationaliser aussi mes créations, de rester vraiment dans un contexte vraiment entreprise
française,
famille française, voilà, que tout le monde puisse s'identifier et pas de me comparer à d'autres marques qui font fabriquer ailleurs, en fait. Je l'aurais pas appelé le turban français si je faisais créer et coudre mes turbans en Chine ou ailleurs, ça c'est sûr.
Parce que là, toute la production est vraiment réalisée en France.
Elle est même réalisée à Paris par mes petites mains à moi, donc mes deux mains. Je suis toute seule, donc je fais tout toute seule. Voilà.
Et t'aurais limite pu l'appeler le turban parisien.
Peut-être, oui. Oui, mais après, c'est aussi le but de ma remise en question en ce moment, c'est de savoir si je veux rester à Paris toute seule ou si je veux me faire aider justement avec une production un peu plus importante, mais en restant en France ou en Europe.
Mais donc tu réalises tes turbans toute seule et... T'as appris ça à l'école ou t'as appris sur le tard avec des vidéos? Parce que réaliser un turban, c'est pas le même process que réaliser un vêtement.
Ça c'était une grande question aussi. C'était la recherche technique et ça a pris pas mal de temps pour aboutir à un joli rendu. Donc au départ, j'ai regardé un petit peu comment ça pouvait tomber. J'en ai fait plein de mes mains. Et après, j'ai fait appel. Voilà, un autre cas, quand on a du réseau, c'est qu'on a des copines douées pour beaucoup de choses. Et moi, j'ai une copine qui est très douée pour la couture. Et elle m'a donné beaucoup de son temps. Et je leur remercie énormément pour m'aider, la recherche technique, comment je couds ce turban pour qu'il tombe bien, comment je monte le turban pour que la cliente n'ait pas besoin de le nouer elle-même, mais qu'elle ait le turban, en fait, qu'elle le mette comme un bonnet et que ça fasse comme un turban. Enfin voilà, c'était une énorme recherche technique qui a pris pas mal de temps, mais finalement on y est arrivé. Donc à force de persévérance, on arrive à beaucoup de choses.
C'est ça. Et quand est-ce que tu as lancé ton premier produit, ton premier turban, après avoir enregistré ton entreprise?
Alors ça m'a pris environ un an en termes techniques.
Donc tout un an de recherche et développement.
Voilà. Et ensuite, j'ai fait mon premier shooting il y a un peu plus de 2 ans. C'était en novembre 2018. Oui, novembre 2018, j'ai fait mon premier shooting. Et là, pareil, j'ai fait appel à tout mon réseau. Donc, toutes mes copines sont venues pour poser. J'ai demandé à un ami photographe de prendre toutes les photos. Enfin, voilà, donc c'était vraiment une journée éprouvante, mais géniale. Donc là, j'imagine, c'était le lancement, le lancement du site, le lancement des produits, enfin, de la marque.
Et donc, tu t'es lancée 100% online.
Exactement, oui. Mais c'est difficile en étant petite marque d'avoir une boutique. Enfin, je m'imagine pas, même encore maintenant, avoir une boutique. Puisque quand on a une boutique, on n'a pas le temps justement d'être à l'arrière pour créer, enfin d'être à l'atelier. Mmh. Donc voilà, être 100% online, c'est un bon compromis, mais ça ne veut pas dire que plus tard j'aurai une boutique. C'est, pourquoi pas, on ne sait jamais.
Et parce que j'ai vu aussi que tu faisais des diadèmes.
Oui, alors ça c'est...
C'est venu après ou directement dès le début?
Alors non, ça fait un an à peu près. Là, c'était vraiment un peu mon retour aux sources avec ma première passion des diadèmes, des bijoux, des pierres, enfin voilà. Donc il y a un an, on rentrait en confinement et on était tous un peu... on l'est peut-être encore maintenant, mais tous moroses, un peu déprimés. Enfin, voilà, on se dit, on va rester enfermés chez nous, on ne sait pas jusqu'à quand. Donc voilà, donc moi, j'ai profité de ce temps-là pour créer une autre gamme, toujours sous le nom du turban. Donc une gamme de diadèmes. Et d'ailleurs, c'est ma gamme principale et c'est ce que je préfère créer, c'est les diadèmes. Voilà, parce que comme je te disais, je pense qu'on a toutes rêvé à un moment ou à un autre de porter un diadème, d'être que ce soit pour une soirée ou pas. Enfin voilà, je pense, mais ça c'est c'est personnel aussi de se dire ça.
Non mais c'est vrai, je rejoins ce que tu dis parce que tu sais, quand j'ai vu ton site, c'est vraiment ça aussi qui m'avait marqué et que j'avais vraiment apprécié, tout cet univers autour des diadèmes. Et comment tu définirais l'univers, le turban, en 3 mots?
Alors c'est festif, authentique et et précieux.
Précieux.
Ouais, c'est vrai. Je mettrais plus de mots. Hein,
mais c'est vraiment ce qu'on ressent. Après, ce qui est dommage, c'est qu'actuellement, on ne peut pas forcément trop avoir le côté festif, vu les conditions.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est super beau. Moi, c'est vraiment les diadèmes et les turbans et ton univers aussi qui est assez très haut de gamme quand même.
Ah ben, merci beaucoup. Mais oui, ça rejoint... le concept de la modestie, hein. C'est en fait le turban et mes diadèmes, c'est moi sans être moi personnellement, physiquement. Mmh. En fait.
Oui, c'est vraiment le prolongement de ta personne à travers tes créations en fait.
Exactement.
Une incarnation de ta personnalité dans tes créations.
Exactement, avec un bar à diadèmes, pour se dire comme un coffret à bijoux en fait.
Et voilà. Donc, tu as quand même fait plusieurs déclinaisons parce que tu as aussi des barrettes.
Alors, j'ai des barrettes, j'ai des peignes, j'ai des serre-têtes, vraiment toute une déclinaison jour, mais c'est comme je te disais, en ce moment, je suis plus orientée vers vraiment les diadèmes et l'aspect bijoux qui sont assez orientés nuit et festivités.
Et pendant ces années avec le turban, est-ce que tu as eu des échecs? Parce que j'imagine que tout n'est pas rose. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un échec et ce qui t'a appris et comment t'en es sortie plus forte?
Un échec, j'en ai eu plusieurs. Alors je sais. Forcément, on a des échecs, mais il faut toujours prendre le bon côté des choses. Alors, en fait, je pense que un de mes échecs, ça a été de me dire que j'avais trouvé la bonne idée et de tout mettre en œuvre, enfin, de comme un tirage de loto, en fait, de tout miser dessus, alors qu'en fait, c'était pas une si bonne idée que ça. Par exemple, je m'étais dit pour l'hiver, alors c'était au début du turban, je faisais pas encore ni de serre-tête ni de diadème, je m'étais dit que j'allais proposer des bonnets et que j'allais proposer aux clients de les personnaliser avec une broderie, ce que je fais avec les turbans. Donc, j'ai acheté beaucoup, mais trop de bonnets, en fait, et ce qui ne servait à rien, parce que au début, quand on crée sa marque, bah, ce qu'il y a de plus difficile aussi, c'est de se constituer une clientèle. Et j'avais beaucoup plus de bonnets que de clientes, donc je les ai encore. Et en plus, ils attendent. J'ai de la marchandise qui dort. Voilà, un de mes échecs.
Et donc, ce que tu en as appris, c'est modérer, ne pas, enfin, acheter en plus petite quantité.
Acheter, non, pas forcément acheter en plus petite quantité, mais faire des essais d'abord et le proposer à un panel de clients type. Et surtout de s'interroger sur est-ce que ça rentre dans mon image de marque, en fait. Est-ce que si je propose des bonnets, on va se dire, est-ce que c'est dans la même image que je veux donner, très luxe, précieux, bijoux, voilà. Non.
Et c'est vrai aussi que parfois, ce qu'on a en tête n'est pas forcément ce qui va résonner avec le client. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que tu as dit, essayer de présenter le produit à un panel de clients pour voir déjà si ça matche avec eux ou pas. Avant de se dire qu'on se lance dans une grande production.
Mais après, oui, ça rejoint aussi avec ce qu'on se disait au début, c'est que il faut parler de ses idées avec d'autres personnes extérieures au sujet pour savoir ce qu'elles attendent. Reprendre contact justement avec son réseau pour savoir si c'est en adéquation.
Et comment tu vois le futur? Tu dis, faut dire le futur du turban ou de le turban? Je sais pas comment.
On peut dire du turban.
Du turban. Et comment tu vois le futur du turban?
Je le vois grandissant pour l'instant, mais c'est mon bébé. Alors, c'est mon petit bébé encore, mais j'espère qu'il va grandir vite. Forcément, en étant une petite marque, en auto-entrepreneur et surtout en ce moment, c'est assez compliqué de se démarquer et surtout évidemment de se dégager un chiffre et d'en vivre. Le futur pour moi, ce serait vraiment d'en vivre pleinement et de le faire grandir, de le faire connaître. Alors pas forcément en tant que marque en tant que marque de turban, mais pour l'instant, oui, je suis vraiment dans ma perspective diadème, et comme j'en parle beaucoup autour de moi, je sens que ça plaît. Donc, je vais continuer là-dessus.
Donc, tu veux pivoter vers le diadème, faire du diadème ton produit phare plutôt que le turban?
Oui, je pense que et puis c'est un peu une attente en ce moment, comme je disais, on est dans une période un peu morose. Mais je suis sûre qu'on va avoir des années folles juste après. C'est l'histoire, c'est un éternel recommencement. Les années 20, on va avoir dans les années 2020, années folles. Je pourrais parier là-dessus.
Je suis d'accord avec toi.
Donc, on va vouloir sortir. On va vouloir se faire belle, on va vouloir briller, on va vouloir porter des accessoires ou des vêtements qui sortent de l'ordinaire pour faire comme un stop avec la période qu'on vient de vivre.
Bah oui, à force d'être confinée, au bout d'un moment, c'est sûr.
Ça me rappelle, comme Dior qui avait créé son new look juste après la guerre, il avait dit justement, il créait ses robes un petit peu de petite princesse pour justement montrer que la femme à cette période-là, elle en avait tellement marre d'être dans un carcan, de subir une époque morose, déprimante, qu'on n'avait qu'une envie, c'était de sortir. Et évidemment, il s'est fait critiquer avec toute cette exubérance, mais le temps lui a donné raison, donc pourquoi pas pour moi.
De toute façon, toute innovation passe d'abord par la critique avant d'être acceptée de tous.
Exactement. Donc, après, on peut se dire que on peut pas plaire à tout le monde de toute façon.
C'est sûr.
Mais ça fait partie de la vie.
Et c'est tant mieux, hein, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et
ouais.
On crée pas.
Ça donne moins de valeur justement. Mais non, moi j'accepte la critique.
Et tu sais, si tu te concentres sur le diadème, est-ce que tu vas changer le nom ou pas?
Alors ça, c'est une bonne question. Pas dans l'immédiat, parce que j'en ai parlé autour de moi et on me dit que le turban, c'est un joli nom, qu'on le comprend et que on comprend que c'est pour la tête. Mais je me suis posé la question aussi de changer le nom, mais j'ai pas encore trouvé comment, donc pour l'instant ça restera le turban.
Ou sinon peut-être créer un autre nom pour les diadèmes, ou
pourquoi pas,
à voir.
Pourquoi pas.
En tout cas, je te souhaite vraiment de la développer. Et est-ce que tu te vois aussi pas forcément avoir ta propre boutique, mais vendre tes diadèmes ou turbans dans des concept stores ou des magasins multimarques?
Oui, totalement. Je pense que ça fait partie d'une première étape, avant d'avoir sa propre boutique. Et puis, ça nous permet aussi, en tant que créateur, de se tester, de se confronter aux clients, aux critiques. D'avoir des retours positifs ou négatifs. Par rapport au produit, donc évidemment c'est une étape à envisager.
De toute façon, je mettrai tous les liens en description pour qu'on puisse suivre le turban. Et si on passe à la partie qui concerne tes inspirations en lien avec le sujet du podcast qui est la modestie, quels seraient les trois créateurs ou marques qui pourraient incarner ta vision de la modestie dans la mode?
Moi, je voue une admiration à Christian Dior. Alors, peut-être que il est, évidemment, on le connaît pas personnellement, mais je trouve que sa personne s'efface par rapport à sa maison, à ses créations. Après, je sais pas du tout s'il était modeste ou pas. Mais il a fait de l'image de sa marque vraiment pour moi c'est ma passion. Un autre créateur, c'est compliqué. Après, il y a plus des créateurs de bijoux, mais c'est les anciens bijoux, vous voyez, les des chômets. Alors, chômets, c'est vraiment les créations de diadèmes sous Joséphine et Napoléon Bonaparte. Enfin, voilà. Et en même temps, chômets, ça montrait une exubérance, mais le fondateur, on ne connaît pas forcément. Et je pense que montrer sa marque, son image, ne fait pas forcément, ne rentre pas en compétition avec la personne qu'on est.
Au contraire, c'est complémentaire.
Exactement. Donc, c'est une question hyper compliquée. Je ne m'étais pas posé la question d'ailleurs, mais je m'inspire de tellement de choses, de tout ce qu'on voit, des voyages, des livres. Après, dans les rêves, je rêve beaucoup, donc il peut se passer des choses dans mes rêves, mais il faut que je me réveille pour pouvoir le noter juste après. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les paramètres.
Ouais. Et dans l'art, est-ce qu'il y a des artistes qui pourraient aussi incarner pour toi la modestie à travers leurs œuvres?
Alors les artistes, moi je suis très focalisée sur la période moderne. Moi j'adore tout ce qui est, Élisabeth Vigée-Lebrun, qui elle c'était une des seules femmes peintres de son époque, qui évidemment étant femme devait forcément s'effacer. Pour créer, mais après ses œuvres sont vraiment spectaculaires et d'une délicatesse. Je pense que la délicatesse des sujets rentre en compte dans la modestie en fait du peintre. Je pense que tout ce qui est délicat, on verra un Manet qui était très délicat, Degas ultra délicat, Renoir qui traitait vraiment le détail. Après dans leur période impressionniste. Mais ils l'ont traité avec une telle délicatesse que ça montre leur modestie. C'est personnel aussi, hein. Je pense que...
Et qu'est-ce que tu entends par délicatesse?
C'est vraiment le traitement du détail. Par exemple, on va ressentir sur une peinture, on va ressentir l'air qui est, le vent qui est dans une chevelure, dans le drapé. Ça va être tous ces petits détails qui font que le tableau est vivant.
Donc, ça revient à ce qu'on disait, ce que tu disais au tout début, que vraiment tout réside, la magie d'une œuvre réside dans les détails, l'attention qu'on porte aux détails et la manière dont on les sublime.
Mais tous les détails forment un tout.
C'est super beau. Et est-ce qu'il y aurait des expositions, art ou mode, qui t'ont marqué?
Alors, j'ai adoré, évidemment, l'exposition Dior qui était aux Arts Déco. Vraiment, c'était magique. C'était il y a je sais plus combien de temps. J'étais encore à l'école alors. C'était il y a 3 ans, je pense. J'avais vu aussi l'exposition Saint-Laurent un petit peu avant. Pareil. En fait, les mises en scène sont tellement spectaculaires qu'on rentre vraiment dans les univers de ces créateurs. Et une autre exposition que j'avais beaucoup aimée, c'était l'exposition c'était une rétrospective de Lucien Clergue, qui était photographe, qui était très ami avec Picasso, et qui est donc comme il est de Arles, il photographiait beaucoup de corrida, de gitans. Ça montrait aussi les sentiments des sujets qui posaient pour lui. J'ai beaucoup aimé.
Dommage qu'on puisse pas faire d'exposition actuellement.
Exactement, on attend la suite.
Ouais,
voilà, mais au moins ça nous permet de travailler et d'avancer sur ce qu'on voudrait. Cette période un peu suspendue. Ça nous permet de poser, ouais.
C'est une remise en question, un retour sur soi pour même apprendre à stimuler sa créativité autrement. Tu as parlé de plusieurs manières dont tu stimules ta créativité. Et j'aimerais aussi savoir, concernant tes collections, comment tu trouves la créativité ou l'inspiration pour créer, par exemple, un diadème ou un turban? Quel est ton process créatif? Est-ce que tu as un carnet où tu notes tes idées? Tu te fais des mood boards sur Pinterest?
Ah oui, mais Pinterest, c'est la base.
Ouais, la base de tout le monde.
C'est la base de... Oui, il faut chercher, il faut fouiner, il faut... J'ai beaucoup de livres d'histoire, via mes anciennes études, j'ai le Gombrich où je regarde toutes les, donc c'est comme une encyclopédie en fait sur l'histoire de l'art, et beaucoup de tableaux, de statues, d'architecture sont regroupés par période, et ça me permet aussi de me dire j'aurais tellement aimé vivre à cette période-là, comment ils s'habillaient, qu'est-ce qu'ils avaient dans les cheveux, enfin voilà, il y a beaucoup de recherches comme ça. Et de là vient l'inspiration, mais c'est un processus difficile, l'inspiration. Quelquefois ça vient, quelquefois ça vient pas, c'est
sûr. Et quand ça vient pas, tu fais comment? Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, l'inspiration.
Ah ben ça, c'est l'espèce de syndrome de la page blanche.
Et tu penses qu'il faut se forcer ou faut justement se dire que si j'ai pas d'inspiration, ça veut peut-être dire qu'il faut que j'arrête pour reprendre après?
Oui, je pense qu'il faut pas se forcer parce que, à mon avis, c'est comme l'amour, hein. Si on cherche pas, il vient. Je pense que c'est à force de reposer ses yeux et son imaginaire que ça viendra, en fait. Parce que c'est encore une histoire de détails. Tout est niché dans les détails. Si on aperçoit quelque chose à portée d'œil et qu'on n'y avait pas pensé avant, mais tout d'un coup, peut-être que ça ferait un déclic. On dira, c'est une forme intéressante, c'est un tombé intéressant. Pourquoi pas? Et après, il faut aussi... à force d'essayer de manipuler, de créer, de chercher, mais une fois qu'on a une inspiration originelle, après ça, il en découle pas mal de choses.
Oui, après plusieurs essais, et parfois je dirais même que c'est à travers les erreurs qu'on peut créer nos plus belles œuvres, nos plus belles créations.
Ah,
parce qu'on peut faire un truc, on se dit qu'on se trompe, après on le regarde une deuxième fois, on se dit « Ah, mais finalement, c'est pas si beau que ça, c'est une belle erreur » et on se dit qu'on va garder le projet ou l'objet tel quel.
Exactement. Comme la bêtise de Cambrai.
Comment ?
Comme la bêtise de Cambrai.
Je connais pas, c'est quoi ?
Ah, c'est les petits bonbons, en fait, qui ont été créés un petit peu par erreur. Et puis, finalement, c'est leur best-seller.
Ah, ben voilà, un bel exemple. Et juste, est-ce que tu peux redire le titre du livre d'art?
Alors, le titre, c'est « Histoire de l'art » et c'est par Gombrich. Et c'est aux éditions Fédon.
Ok, top.
Donc, un gros livre. Il est magnifique.
Je mettrai aussi le lien. Et est-ce que tu as d'autres livres peut-être que tu lis qui t'inspirent?
Oui, après il y a tout ce qui est histoire de la mode et du costume. Donc moi je suis très orientée justement entre art et mode, hein, tous les catalogues des expositions, j'essaie de les retrouver. Tout ce qui est en lien entre l'art et le costume, je prends. Et puis il y a aussi la danse classique qui est une de mes passions. On n'en a pas parlé, mais ça rentre aussi en compte. Tout ce qui est histoire du costume de scène, ça rentre dans mes inspirations.
Ah, c'est intéressant. Donc, la danse classique, vraiment les costumes des danseuses.
Voilà, les tutus, comment comment elles font pour danser avec tout leur attirail. Bon, évidemment, tout est ultra structuré, mais elles ont très souvent des diadèmes, notamment dans le lac des cygnes. Tous les petits cygnes ont des petits bandeaux cygnes. Mmh. Et ça, c'est très intéressant pour moi parce que elles ne font que bouger, que danser, et elles restent cygnes. Donc, c'est très très inspirant.
C'est vrai. Et quelles sont tes couleurs préférées ?
Oh là là.
Question piège.
Oui, question piège. Ben, ça dépend des saisons. J'adore le rouge. Mais après, ça dépend aussi de l'intensité du rouge. Alors, le rouge carmin, évidemment. Les bleus très, très profonds. Les verts forêt, émeraude. Enfin, tout. Et puis le noir, évidemment. Le noir et blanc.
Voilà. C'est un classique, le noir, je dirais.
Là, c'est l'intemporel et le chic.
Et c'est même pas une couleur en plus.
Exactement, ouais, oui. Ben...
Et si on
passe... ça va avec tout.
C'est ça. Et si on passe au mot de la fin, le mot positif, quelle évolution positive souhaiterais-tu voir dans l'industrie de la mode et dans la créativité en général ?
Bien, dans la mode, j'aimerais bien qu'on se pose tous la question sur le besoin qu'on en a, en fait. Est-ce qu'on se dit, est-ce que j'ai besoin de tels vêtements ou est-ce que j'en ai envie ? Et de s'interroger ensuite sur tout ce qui est production, en fait, de cette mode-là. Mmh. Je trouve que c'est un sujet, enfin, c'est peut-être un sujet à la mode en ce moment, mais je trouve qu'il est important à traiter. Parce que c'est l'industrie de la mode est l'industrie les plus polluantes du monde. Et je trouve que en ce moment on est en pleine réflexion sur le climat. Enfin voilà. Et donc on devrait aussi se poser des questions sur comment consommer mieux. Voilà.
Mmh. Moins mais mieux.
Moins et mieux, enfin plus qualitatif entre eux, voilà.
Moins et mieux.
Exactement.
Et est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ?
Oui.
Laquelle ou lesquelles ?
Ouais, ça aussi, c'est une bonne question. Moi, j'ai plutôt des mantras, en fait. C'est pas vraiment des citations, il y a un auteur derrière. Je vais plutôt me référer à des proverbes qui au final sont vrais quand je me dis je cherche tout ce qui est simple et efficace. C'est l'un de mes mantras avec le il y en a un autre, je sais plus ce que c'est maintenant.
En tout cas, c'est
voilà.
Lié à la simplicité.
Exactement, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus facile à trouver.
Au contraire, tu sais, je trouve que justement la simplicité, c'est extrêmement complexe à atteindre.
Ah oui, mais je suis confrontée tous les jours en recherche sourcing, quand je veux une forme ultra simple, bah, c'est impossible à trouver. Mmh. Ou alors je ne cherche pas bien, mais c'est vraiment très très compliqué.
C'est un vrai enjeu. Et pourtant, le bonheur réside dans les choses simples, mais c'est très compliqué de trouver justement cette simplicité qui correspond vraiment avec ce qu'on recherche.
Exactement. Je suis confrontée tous les jours.
Et pour terminer, avant, comment on peut te retrouver ou te contacter si on souhaite en savoir plus sur toi et tes actualités ?
Alors, vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux, donc plus particulièrement sur Instagram, donc le turban français tout attaché. Après, j'ai un compte Pinterest qui s'appelle aussi le turban français. Et après, vous avez mon site e-shop, le-turban.com. Voilà, où il y a une petite partie blog que j'essaie de mettre en évidence, mais c'est pas facile de trouver des sujets Tout et le temps, bah, comme l'inspiration. Hein.
Ouais, bah, c'est un enjeu sans fin. Et t'as
exactement.
Déjà, t'as commencé à faire des articles sur le blog? Tu parles de quoi à peu près?
Alors, oui, il y en a quelques-uns. Donc j'en ai, bah, c'est vraiment orienté sur l'histoire de la mode. Et là, je suis en train d'en rédiger un sur l'histoire de la coiffure. Donc, pour l'instant, j'en suis à la période antique et l'antiquité grecque et romaine. Mais j'espère arriver jusqu'à la période contemporaine.
Ah, c'est super intéressant. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Et encore une fois, Céline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi. C'est un vrai plaisir de partager mon travail, ma vision de la vie.
C'était super intéressant et j'espère que d'ici peut-être, je sais pas, quelques années, on pourra en refaire un autre pour voir tout l'avancée de du
chat. Avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Non, mais je suis ravie.
En tout cas, bonne continuation et à très bientôt.
À très bientôt, merci. Au revoir.